France Musique.
Quel scandale! On lynche Maria Callas.
Il comunicato dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. È anche comprensibile, naturalmente il piano maggiore.
Déjà 2 heures du matin. Elle se blottit dans les bras de son mari, son vieux Tita, qu'il aime un peu comme un père. Il la raisonne, s'efforce de la calmer, lui dit qu'il est inutile de rester barricadé dans cette loge plus longtemps. Cela fait déjà 4 heures qu'elle a interrompu la représentation, en bravant tous les avis, les conseils, voire les menaces. 4 heures qu'elle s'est réfugiée dans sa loge. Non, elle n'a pas cédé. Elle sait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tout arrêter. Sa gorge lui fait mal, sa fièvre monte et elle se sent encore tellement oppressée. On fait peser sur elle une telle responsabilité. Et puis cette foule excitée, humiliante, que les policiers ont du mal à contenir à l'entrée des artistes. Alors elle acquiesce à la proposition de son mari. Elle fait confiance à Tita. Il a toujours su la tirer du pétrin. Ce qu'elle souhaite, se faire aussi petite qu'une souris, qu'on l'oublie, ce soir en tout cas. Demain, personne n'y pensera plus. Elle en a vu d'autres. Les aficionados déçus, les foules excitées, ça ne date pas d'hier. Alors, elle s'excusera publiquement, donnera peut-être 1 ou 2 interviews et ce sera fini. Dans 3 jours... Elle assurera les 3 autres soirées et le public de l'Opéra de Rome, qui aura oublié, la fêtera comme il se doit. Ça la rassure de se dire ça, mais Tita reste silencieux. Elle sort de sa loge, épaulée par son mari. Dieu soit loué, Sampaoli, le directeur artistique, est parti. Elle n'a pas envie, une fois de plus, de l'entendre l'accuser de désertion. Ça va bien comme ça. Dans le couloir, il tombe nez à nez avec un policier ou un machiniste du théâtre. Elle ne sait plus trop, son discernement est troublé. « Madame Callas, vous ne pouvez pas sortir du théâtre par là. C'est trop dangereux. Les spectateurs qui vous attendent sont comme fous. On dirait qu'ils veulent vous lyncher. Pour les éviter, je vous conseille d'emprunter le tunnel secret qui relie l'opéra à votre hôtel, le Quirinale. » Abasourdie, Maria suit l'homme, accompagnée de Tita. Pourquoi tant de violence ce 2 janvier 1958, soirée d'inauguration de la saison de l'Opéra de Rome? Du jamais vu, Maria Callas devait y interpréter Norma, rôle dans lequel elle avait plus d'une fois triomphé. Son rôle, un rôle culte. Mais passé le premier acte, voilà, elle a senti sa voix lâchée et a tout simplement refusé de continuer à se mettre en danger. Faute de doublure, fin de la représentation, fin de la soirée d'inauguration. Pourtant, quel public pour cette première!
Les stars de l'italien screen, comme Anna Magnani,
quite a fiery character herself when she wants to be, and Silvana Pampanini. American society hostess Elsa Maxwell must be thinking that this almost equals one of her own fabulous parties. A fashion parade straight out of Who's Who, with enough material to keep the glossy magazines happy for weeks. You don't know whether to look at dresses or faces, though some faces you can't miss, of course. 3,000 people, from artists to aristocrats,
oui,
from dancers
tout le Gotha de la société italienne s'est déplacé. Les grands noms de l'aristocratie et de l'art, des diplomates, des vedettes de cinéma, comme Gina Lollobrigida, Anna Magnani, et surtout, le président de la République en personne, Giovanni Gronchi. La soirée est retransmise en direct sur les radios françaises et italiennes. C'est elle qui fait l'événement. Des places vendues habituellement 20 000 lire se sont arrachées à plus de 3 fois leur prix. Tous veulent voir la diva, la Callas, dans son rôle fétiche. Une Callas au sommet de son art et d'une gloire qui, grâce à cette soirée romaine, va de très loin déborder du monde de l'opéra. Lorsque cette cohorte de spectateurs frustrés, agglutinés devant la sortie des artistes, comprend que la diva n'est plus à l'opéra, elle se dirige vers son hôtel, Via Nazionale. Cette foule déçue n'a pas encore fini de vomir sa haine. Elle est décidément sans pitié, infatigable, enragée. Pourquoi ne pas aller maintenant l'insulter sous ses fenêtres ? Ces aficionados oublient toute convenance. Pourquoi es-tu revenu à la Scala ? Tu nous coûtes 1 million ! Mais quand vont-ils arrêter cette curée ? Maria Callas ressasse des pensées qu'elle se répète en boucle depuis des heures. Elle aurait dû suivre son premier instinct. Il y avait le président de la République dans la salle ? Et alors ? Pour elle, il y avait surtout et avant tout Bellini, le compositeur de Norma. C'est à lui qu'elle doit rendre des comptes en premier lieu, pas au président de la République italienne. Alors, si elle a jugé qu'elle n'était pas capable d'aller plus loin, elle a bien fait d'interrompre sa prestation. Et tant pis si certains ont déboursé des fortunes, seul l'art lui importe. Elle ne pouvait plus, c'est tout. Quelques journalistes suivent l'affaire sans rien comprendre de ses préoccupations. Il y a une semaine, Madame Maria Callas était nommée commandeur de l'Ordre de la République. Et hier soir, elle a renvoyé chez lui le président. Il paese. Avanti. L'attitude de la cantatrice illustre les mauvaises habitudes de certaines primées données qui n'acceptent pas d'observations et de critiques et ne veulent que des applaudissements et des éloges sans fin. Paris Presse, en France. La forte personnalité de la Callas n'est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, l'artiste, critiquée par les uns, portée au nu par les autres, a toujours fait parler d'elle. Les raisons de cette célébrité sont dues, d'une part, aux exceptionnelles qualités musicales de sa voix et, d'autre part, à sa personnalité extra-musicale. On connaît son tempérament ombrageux, violent même. Certaines photographies l'ont montré alors qu'elle lance de furieux anathèmes à un inspecteur du fisc américain. Et pourtant, 2 jours auparavant, elle avait prévenu le directeur de l'opéra de ses difficultés. « Ma voix ne sort pas, signore. Vous feriez peut-être bien de chercher à me remplacer. » « Impossible, tu es irremplaçable, les gens ont payé pour t'entendre, tu dois chanter, il n'y a pas d'autre solution !» lui avait répondu le directeur, pas peu fier des 7 millions de lire de recettes et des 2500 places vendues en un clin d'œil. Elle aurait dû l'exiger, tenir bon. Arrivée à Rome depuis une semaine, dans la soirée du 26 décembre 1957, Callas, accompagnée de son époux Giovanni Battista Meneghini, industriel de son état, devenu son impresario et de 27 ans son aîné, se sont aussitôt installés à l'hôtel Quirinale. Déjà, les mois précédents n'avaient pas été de tout repos pour elle. Aux États-Unis, elle était enfin parvenue à un accord avec un impresario véreux, un certain Baragozzi, qui lui réclamait des sommes astronomiques. À Milan, c'est avec un bal masqué de Verdi qu'elle vient d'inaugurer la saison de la Scala. Un succès. Et ce, en dépit de costumes devenus trop grands, comme elle a beaucoup maigri, et des tensions inhérentes à la production. C'est que sa fidèle Margherita Wallmann a dû collaborer avec Gianandrea Gavazzini dans une atmosphère électrique, épuisante pour elle. Et puis, des bruits déplaisants courent sur son état vocal, aiguisé par cette spectaculaire cure d'amaigrissement. Et de ça aussi, la presse se régale. Maria Kalogeropoulos, dite Kalas, née le 4 décembre 1923 à New York de parents immigrés grecs, eut une enfance ingrate. À 8 ans, elle était une grosse fille très laide et très myope, qui déjà triait comme un rossignol sous la férule d'une mère sans tendresse. À 22 ans, elle pillait systématiquement les pâtisseries et les drugstores de New York, atteignant le poids faramineux de 110 kilos. En 1952, miracle, un mois suffit à lui faire perdre 20 kilos. Puis elle descend jusqu'à 65 kilos, son poids actuel. Elle a aujourd'hui la taille mannequin, 1m72, 59 cm de tour de taille, 92 cm de tour de poitrine. Le Monde, 18 décembre 1958. Kalas commence à répéter à Rome dès le 27 décembre, lendemain de son arrivée. Sa chère Margherita Wallmann met à nouveau en scène, sans contrainte cette fois. Le ténor Franco Corelli, Miriam Pirazzini, qui remplace Fedora Barbieri, et le chef d'orchestre Santini sont de la partie. Une bonne équipe. Le 28 décembre, à 5 jours de la première, catastrophe. Sa gorge picote. Il s'agit d'être prudente. Le 29 décembre, un dimanche, repos dans sa chambre. Le 31 après-midi, général. Tout se déroule pour le mieux, mais dans sa loge, Maria prend froid, elle se met à frissonner. Sa voix devient légèrement rauque. Elle prend sur elle. Allez, allez, ça ira bien pour cette fois encore. 20h30, elle file à la télévision pour enregistrer son Casta Diva, retransmis depuis la RAI dans l'Europe entière. Elle s'y lance à corps perdu. Sa voix sonne glorieusement. Puis elle sort fêter la Saint-Sylvestre avec son mari, quelques amis. Elle boit une ou deux coupes de champagne et à 1h du matin, au lit. Il s'agit d'assurer la première dans 2 jours. Le cauchemar commence dès son lever le lendemain. Maria est muette. Sa voix ne répond pas. Elle prévient le directeur de l'opéra. Il faut la remplacer pour la première. Elle ne pourra pas chanter ce rôle si exigeant. Mais lui aussi pense à un caprice de la diva et il ne veut rien savoir. D'ailleurs, aucune doublure n'est prévue pour elle. Alors Maria cède encore. Elle passe toute la journée du 1er janvier 1958 dans sa chambre, avale un somnifère et dort 12 heures d'affilée. À son réveil, miracle, sa voix est revenue. rassurée, elle part donc se préparer pour la représentation du soir, prend de la quinine et demande au médecin de lui faire une piqûre excitante, à réveiller un mort. Avec ça, elle tiendra. Le prestigieux public bien installé, Norma commence. Puis arrive le moment de son casta diva. Sa voix s'élève avec grâce et force, les archives du direct radio en témoignent, quand une poignée de spectateurs l'apostrophe grossièrement, siffle du poulailler. C'est monnaie courante en Italie, surtout lorsqu'on s'appelle Callas et qu'on déchaîne de telles passions. Non, ce casta diva, ce n'est pas le sien. Elle l'a terminé, mais elle a utilisé toutes ses ressources. Sa voix ne suivra plus. Alors, pendant que Pollione et Adalgisa chantent leur duo, elle sait qu'elle s'arrêtera là, qu'elle est au bout de ses capacités vocales. Elle ne veut pas définitivement perdre sa voix, la forcer plus longtemps. Au salut de fin d'acte, on la pousse littéralement sur scène. Ses applaudissements, elle n'en veut pas, elle ne les mérite pas. La seule chose qui lui importe est de quitter la scène et de rentrer. Alors elle s'enferme dans sa loge. Et l'entracte dure, dure encore. Le public attend. Que fait la diva ? L'administrateur de l'opéra, Carlo Latini, et le directeur s'arrachent les cheveux. Mais enfin, tu as déjà chanté avec une migraine, avec une cheville foulée. Ça va passer, retourne-y. Le président de la République est là, il t'attend. Le monde t'attend. Rien n'y fait. Elle ne change pas d'avis. Ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas de doublure. Elle avait prévenu. On avise discrètement le président de la République qui maugrait contre les caprices de la cantatrice. Puis, le régisseur, peu rassuré, se glisse devant le rideau de scène, lit un bout de papier qu'il tient dans la main. La direction du théâtre est obligée d'interrompre cette soirée pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Cris, huées, sifflets, les gens se lèvent, cohue générale, c'est le début du scandale.
Dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa.
Les journaux du lendemain ne parlent que de ça. Ce qui s'est passé est particulièrement grave, écrit Il Tempo. Il y va de la dignité et de l'intérêt non seulement de l'art et de la musique en particulier, mais aussi du minimum de respect qu'on doit à une ville comme Rome. On rappelle aussi que la cantatrice avait déjà, en 1952, quitté la scène pendant la représentation de Macbeth à la Scala de Milan. En 1965, dans un entretien avec Bernard Gavotti, Callas s'en souviendra dans ces termes. « Dès mon entrée en scène, mon courage reçoit sa récompense, une bordée de sifflets. Rome et Milan sont les deux sœurs ennemies. J'expie dans la ville éternelle mais trop long succès dans la cité du Bel Canto. Imaginez ce que cela représente que de chanter Norma un jour où l'on est aphone devant une salle hostile. Après le premier acte, je décide d'arrêter les frais. Je veux bien me battre avec la foule, à condition d'avoir tous mes moyens. » Insultée, incomprise, Maria Callas reste confinée dans son hôtel. Elle n'ose ni se montrer, ni s'excuser. Il Giorno de Milan la traîne dans la boue. Cette médiocre artiste grecque, devenue italienne par son mariage, milanaise par l'admiration injustifiée de certaines loges de la Scala, a pu suivre pendant des années la voie de la plus mauvaise débauche mélodramatique. L'épisode de jeudi prouve que Maria Meneghini Kallas est une cantatrice désagréable qui piétine le sens le plus élémentaire de la discipline et de la correction. Lettres, télégrammes, coups de téléphone affluent à l'hôtel Quirinale. C'est votre perte de poids qui est la cause de votre mauvaise humeur. Vous avez perdu 35 kilos, vous n'êtes plus heureuse. Par pitié, reprenez-les. Les murs de Rome se couvrent de graffitis anti-Kallas. Dans les rues, dans les salons, elle est devenue le seul sujet des conversations. La foule fait pression quotidiennement sous ses fenêtres. Au Parlement, le président du Conseil doit répondre à l'interpellation d'un député qui demande des explications sur les prises astronomiques des places. L'Italie est en ébullition. Elsa Maxwell, journaliste et chroniqueuse mondaine américaine, rajoute de l'huile sur le feu en déclarant « Les Romains sont barbares et corrompus. Ils constituent le public le plus cruel qui soit au monde. Si Maria suit mon conseil, elle ne se produira plus jamais devant eux. » Phrase qui vaut une protestation du ministre de l'Intérieur auprès de l'ambassade des États-Unis. Et voilà comment se comprend pour un caprice est devenu en quelques heures un fait divers planétaire. Maria Kallas est très durement affectée par ce qui se passe. Son médecin diagnostique une laryngite compliquée d'une bronchite. Le directeur de l'opéra, lui, juge qu'elle aurait dû se préparer plus sérieusement à cette soirée de gala. C'est certificat médical contre campagne de presse. Kallas pense renoncer à la suite de son contrat, puis se ravise. Elle reçoit aussi des lettres de soutien, d'amis, d'anonymes. Luchino Visconti vient la réconforter. Elle s'excuse auprès du président de la République, qui lui envoie en retour un énorme bouquet de roses rouges. Le président a pardonné. Le public peut lui pardonner aussi. Engagée pour 4 représentations de Norma, Kallas entend bien honorer les 3 autres. Elle le fait savoir à l'administrateur de l'Opéra de Rome par avocat interposé. Pour compenser l'échec de la première, elle ne demande aucun cachet, ou bien elle en fera don à des œuvres charitables. N'est-ce pas une façon de s'excuser auprès du public ? Mais après consultation de son conseil d'administration et de la préfecture de police, sa décision est prise. Dans les conditions actuelles, Madame Kallas ne peut revenir sur la scène du théâtre car la sécurité ne peut être garantie. Elle sera remplacée. Tour à tour, la presse, puis l'opinion romaine, approuvent la décision. Kallas, non seulement n'a pas le droit d'être malade, mais la voilà punie, boudée. Le 9 janvier, c'est entièrement vêtue de noir qu'elle quitte l'hôtel Quirinale au bras de son mari, toujours protégée par un service d'ordre démesuré. Sur le quai de la gare, attendant son train pour Milan, elle déclare aux journalistes « Mon seul regret est que depuis le 2 janvier, aucun représentant du théâtre de l'opéra ne m'ait donné signe de vie. Dans quelques jours, vous connaîtrez la vérité sur cette triste aventure. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente. Ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna
che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso.
Milan, 14 janvier 1958. J'ai été littéralement lynché. Les journaux, non seulement de Rome, d'Italie, mais d'Europe et d'Amérique, sauf quelques exceptions qui m'ont ému pour avoir été si rare, ont mis de côté pour un, deux, trois jours les événements politiques internationaux, tous les malheurs infinis qui affligent cette humanité tourmentée, et ont réservé leur une, leur plus grand titre, leurs chroniques les plus minutieuses à mon pauvre nom. C'était le moment opportun pour le traîner dans la boue. Ah, cette femme avait donc réussi à s'affirmer tellement fort dans le monde de la musique, avec pour seule aide sa voix. Eh bien, qu'avait-il, que pouvait-il y avoir de plus divertissant que de l'écraser et de bien la piétiner, juste au moment où, de voix, elle n'avait plus, pour pouvoir se faire entendre et se défendre. Que pouvait-il y avoir de plus drôle que de lui donner le coup de grâce, comme on le fait avec un être nuisible, désormais blessé à mort. Je n'en veux pas aux journalistes. Je m'en veux surtout à moi-même, parce que je n'ai pas compris que la majorité préfère l'artifice à l'art et la fourberie à la sincérité. Une voix qui chante n'est qu'un son qui se remplit d'affection.
Ce que j'ai voulu être, c'est pour l'art. Tout ce que je veux, c'est toujours à servir l'art. Alors si j'ai voulu, souvent je me suis fait des ennemis, c'est sûrement pas pour moi, évidemment. Mais nous servons cette merveille, cette chose unique au monde, que c'est la musique. C'est pour ça que tout ce que j'ai voulu, même le sujet, disons, maigrir, je l'ai voulu parce que sur scène, il faut que nous donnions le mieux possible. Pardonnez-moi mon français un peu. Mais enfin, il faut servir l'art et la musique surtout. Travailler, faire n'importe quel sacrifice, ça veut dire des fois 20 heures par jour, ils ont 20 sur 24 heures de travail, ça veut dire beaucoup de soucis, ça veut dire beaucoup d'angoisse, parce que vous voyez toujours le triomphe, mais ce n'est pas toujours des triomphes. Pour arriver à l'acclamation, mon Dieu, il faut du travail. Après, quand on arrive, on croit que là, alors, on peut vraiment être tranquille, travailler bien, se reposer, eh bien, ça, alors... Les soucis commencent justement alors, parce que pour, disons, faire le 100%, donner le 100% de ce que vous aviez eu hier, il faut donner au moins le 200%, c'est-à-dire travailler deux fois de plus et donner. Mais il faut être aussi digne de nous, digne de notre honnêteté.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
On lynche Maria Callas. Qu'on la laisse donc un peu chanter. Norma, Tosca, Lucia, Gioconda.
c'est elle.
Thank you. Thank you. freno il tal momento che la morte al brando corse nel suo duolo il suo spavento sol la prova d'un rimorso ma qual rosa inadita è la stata morte vita a che spirito sono mosso ama ingrata ama sempre ingrata come
Oh,
Nous avons écouté des extraits du Trouvert de Verdi, de Lucia di Lammermoor de Donizetti, de la Gioconda de Ponchielli, de Tosca de Puccini, de Norma de Bellini, par Maria Callas. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était Quel scandale ! Aujourd'hui, on lynche Maria Callas. Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Merci à la documentation de Radio France. Prise de son et mixage, Stéphane Touvenin et Tahar Bouklifa. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme demain, Beethoven, une héroïque qui détonne.
À réécouter sur francemusique.fr.